Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rothen.
I'm sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous mensuel du Centre français des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir chaque mois la richesse et la diversité des musiques juives d'hier mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, notre émission sera consacrée aux musiques juives de Bohême et Moravie. Mais où sont donc ces pays ou ces provinces? La Bohême et la Moravie font partie de la République tchèque ou Tchéquie. Entourée par la Pologne, l'Allemagne et la Slovaquie, la Tchéquie est un pays d'Europe centrale qui a traversé de nombreuses vicissitudes tout au long de son histoire. Après la dislocation de l'Empire d'Autriche-Hongrie à la fin de la Première Guerre mondiale, les Tchèques sont devenus indépendants au sein d'un pays, la Tchécoslovaquie, qui incluait également des régions slovaques. Et cette première Tchécoslovaquie a disparu lorsque l'Allemagne nazie a annexé la Bohême et la Moravie en mars 1939, créant ainsi un protectorat de Bohême-Moravie sous administration militaire. A signaler que pendant ce temps-là, la Slovaquie avait proclamé son indépendance. Reconstituée en 1945, la Tchécoslovaquie doit céder à l'Union soviétique la Ruthénie subcarpatique, et en 1946, des élections donnent aux communistes la présidence du Conseil, le nouveau régime nationalise le secteur privé et met en place, comme on le sait, une économie de type soviétique. Il faudra attendre l'année 1968 avec Alexander Dubček qui lance un programme de réforme dans le sens d'une libéralisation du régime que l'on appelle le printemps de Prague. Mais l'URSS et ses alliés du pacte de Varsovie envahissent la Tchécoslovaquie en août de la même année. Le 17 novembre 1989, quelques jours après la chute du mur de Berlin, débute la révolution de velours qui porte l'opposant tchèque Václav Havel à la présidence de la République tchécoslovaque le 30 décembre 1989. La Tchéquie est devenue indépendante le 1er janvier 1993 suite à sa scission avec la République fédérale, de la République fédérale tchèque et slovaque. Sa capitale est Prague, une ville où le judaïsme a vécu une histoire millénaire. Enfin, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Prague, se situe la forteresse tristement célèbre de Térézine, où furent parqués environ 144 000 juifs, principalement des intellectuels et artistes, qui, dans des conditions de vie surhumaines, continuèrent à créer, notamment des œuvres musicales. Ce soir, nous allons donc parcourir ensemble l'histoire juive de ce pays en musique, avec une première illustration musicale enregistrée à Prague en 1937.
Pro mě přijdeš, lásko má. vita forse nero se veni, artifici te posso veni, rogne fine sasco mo.
Nous venons d'entendre le Doldober Orchestra dans un enregistrement des années 1927-1938, enregistrement historique réédité par le musée juif à Prague en 2004. Et ne comptez pas sur moi pour vous donner le titre en tchèque, je ne parle pas le tchèque, mais j'ai la chance d'avoir ce soir avec moi une musicologue qui s'appelle Marta Stelmacher, qui elle parle le tchèque. Marta Stelmacher, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, comme je l'ai dit, vous êtes musicologue d'ailleurs allemande, originaire de Dresde, et vous avez notamment réalisé un très important travail sur les archives musicales des synagogues de Prague. Pourriez-vous nous faire un bref commentaire sur ce que l'on vient d'entendre, et notamment nous donner le titre en tchèque, parce que je ne me serais pas aventuré à le donner, et sa traduction peut-être, et nous dire qui était Doldober?
Oui, le titre est « Ziganklisch Pisnihra », et ça veut dire « le tzigane quand il chante ». Ou quand il joue, oui. Et Doldober, qui a joué, était un violoniste juif très doué. Et il était chef de plusieurs orchestres de salon qui jouaient dans les cafés les plus en vogue à Prague et dans les villes d'eau de Bohème. Et cette chanson est un tango de Roumanie, mais avec un texte en tchèque. Et c'est un morceau comme on pouvait les entendre dans les cafés des années 20, 30.
Oui, alors c'est typiquement de la musique juive parce qu'on a à la fois le tango, la Roumanie jouée par un violoniste tchèque. Là, c'est ce mélange qui caractérise les musiques juives. Et il faut dire qu'à ce niveau-là, Prague est un condensé peut-être de tout, du centre de l'Europe et peut-être de toutes les influences juives, puisque c'était d'abord une ville très importante. Hein, elle comportait le plus grand nombre de synagogues en Europe, on l'ignore souvent. Comme on l'a dit, depuis plus de 1000 ans, les Juifs vivaient à Prague. Donc parmi ces synagogues, on connaît bien sûr la synagogue Altneue, qui veut dire vieille nouvelle, mais également Pinhas, Klaus, mais aussi la synagogue espagnole et la synagogue Meisel. Alors, juste pour signaler, la synagogue espagnole n'était pas fréquentée par des Juifs venus d'Espagne, mais elle ne doit son nom parce qu'elle a été décorée par des architectes selon les décors des synagogues de Tolède. Quant à la synagogue Meisel, elle était édifiée en style gothique à la fin du XIXe siècle. Et ces deux dernières synagogues font aujourd'hui partie du musée juif de Prague qu'on a cité précédemment et ne sont plus utilisées pour les services religieux. Par contre, dans le quartier, alors je ne sais pas si je prononce bien, vous me corrigerez, Nové Mesto, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit.
Nové Mesto.
Ah voilà, il nous faut l'accent tchèque. Se trouve la plus grande synagogue de Prague, la synagogue du Jubilé, qui a été construite en 1906. Et son style est un mélange d'art nouveau et de style mauresque. Et c'était une synagogue libérale. Où l'on pouvait assister à des services. Elle devait son nom d'ailleurs au jubilé de l'empereur François-Joseph. Et en fait, elle témoigne bien de la volonté d'assimilation de la communauté juive pragoise au début du XXe siècle. Et dans ces synagogues, ce qui est un peu étonnant, c'est comme dans d'autres synagogues réformées, puisqu'on parle de synagogues réformées, donc dans d'autres synagogues réformées d'Allemagne, une partie de la liturgie était chantée en allemand. Tel est le cas notamment du psaume 130, le fameux psaume Mima Amakim en latin des Profundis, que nous allons entendre à présent, chanté dans une composition de David Rubin, donc en allemand.
Thank you.
aus tiefer Not ruf ich zu dir, psaume 130, composé par David Rubin, extrait d'un CD Shema Yisrael, jüdische Musik aus den Böhmischen Ländern, chanté par le chœur allemand Moravia Cantata, publié en 2003. Une très belle interprétation, et on est tout à fait, d'ailleurs, Martha, dans l'esprit un petit peu, je dirais, de la musique protestante allemande. Ça me rappelle un peu un choral, en quelque sorte, chœur mixte. Mais première question, Martha, mais qui était ce David Rubin? Moi, je ne le connaissais pas du tout.
David Rubin était directeur d'une école pour Hassanim à Prague, et il était chef du chœur de la synagogue espagnole dont on a parlé avant. Et dans les années 1860, il était aussi premier violoniste au théâtre. Et les compositions de Rubin étaient chantées partout en Europe dans la période au début du XXe siècle. Et aussi aux États-Unis. Oui.
D'accord. Alors, vous voyez, j'apprends quelque chose là quand même, parce que je ne le connaissais pas. C'est David Rubin, c'est très très beau.
Oui, et dans la même synagogue, dans la synagogue espagnole, était au 19e siècle František Škroup, qui était chef du chœur et aussi organiste. Et il était catholique, mais ce n'était pas un problème. Et. Il composait aussi, il était un compositeur très connu et il composait l'hymne actuel de la République tchèque. Et une chose un peu rigolo est qu'aujourd'hui, on peut écouter à la communauté juive une prière avec la mélodie de l'hymne parce qu'il a... il a utilisé la même mélodie pour composer l'hymne, mais aussi des prières pour.
Ah, là, c'est extraordinaire. Donc, vous nous dites en fait que l'organisme donc de la synagogue espagnole de Prague, c'est le même que celui qui a créé l'hymne national tchèque et qu'il a utilisé une mélodie synagogale, la même mélodie qu'il chantait à la synagogue.
Oui.
Ah oui, mais alors ça c'est assez fantastique. Mais on trouve ce genre d'anecdote aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les musiques dites hispano-portugaises. Et une des cantates de Simra Torah était calquée sur un air, sur l'hymne national autrichien. Mais là, ça va encore plus loin, parce que là, ce que vous nous dites, c'est carrément peut-être que ce serait cette air synagogale qui aurait été, ou donné naissance, ou aurait été utilisée pour l'hymne national tchèque. Non, c'est tout à fait passionnant. Mais alors, d'abord, je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit, sur les organismes qui étaient pas juifs, catholiques. C'était le cas également en France. La plupart des organismes n'étaient pas juifs, tout simplement parce qu'ils jouaient à la synagogue pendant le Shabbat et les fêtes. Mais une chose me surprend quand même, Martha, c'est... quand on entend ça, c'est pourquoi les juifs tchèques chantaient-ils la liturgie réformée en allemand et non en tchèque?
La majorité des juifs de Bohême et de la Moravie parlaient allemand. Et c'était en fait seulement dans le 19e siècle, avec la naissance d'une conscience nationale tchèque, que des familles juives assimilées ont commencé à parler tchèque. Mais parmi les orthodoxes, on parlait toujours allemand. Et oui, on peut dire qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, la population juive était constituée de groupes très divers, des juifs assimilés qui parlaient tchèque et qui ont eu une identité, qu'ils se sentaient comme des tchèques. Mais aussi des juifs assimilés qui se sentaient comme des Allemands et qui parlaient allemand. Et des orthodoxes, oui, les orthodoxes parlaient aussi allemand. Mais aussi des chassidim qui venaient de Galicie après la Première Guerre mondiale.
D'accord. Mais alors, et ces chassidim, ils parlaient quelle langue? Ils parlaient le yiddish ou...
Ils parlaient le yiddish, oui. Et généralement, on considère que l'ouest de la Tchécoslovaquie était plus réformé parce qu'il y a l'influence de l'Allemagne, de l'Europe de l'ouest avec le rite réformé. Et c'était très fort là. Et à l'est du pays, il y avait plus de communautés orthodoxes et chassidiques. et les Juifs de Bohême, par exemple, les Juifs de l'Est les considéraient comme démodés.
Oui, donc la Bohême et la Moravie, la Tchéquie, étaient vraiment au carrefour de deux civilisations, en fait, entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est.
Oui,
et,
oui.
Et ça se ressent beaucoup dans cette histoire et dans ces musiques. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, les Juifs tchèques ne parlaient quasiment pas l'yiddish, à l'exception des Juifs immigrés de l'Est. Et je crois, d'autre part, que vous m'avez dit tout à l'heure, que le yiddish a été même délaissé, il me semble, au profit de l'allemand vers le 18e siècle. Hein, vous me corrigerez si je me trompe. Mais comment ça se passait, justement, ce culte dans les autres villes de Bohême et de Moravie? Par exemple, si on prend la ville de Brno, qui est en Moravie du Sud, donc dans la partie est de la Tchéquie, est-ce que sa liturgie était également réformée avant la Seconde Guerre mondiale?
Oui, la majorité des communautés en Bohême et en Moravie avaient adopté le rite réformé. Brno aussi. Et il y avait seulement quelques petites communautés, surtout en Moravie, qui s'en étaient tenues au rite orthodoxe. Et à Prague, il n'y avait que 3 synagogues orthodoxes et quelques oratoires privés qui ont gardé le rite orthodoxe et aussi les chants traditionnels et les chants anciens de Prague.
Très intéressant. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une pause musicale tout en restant dans l'esprit de cette liturgie, puisque nous allons écouter à présent la célèbre prière de Kippour, Ovinu Malkeinu, dans le rite justement de Brno.
Amen.
La prière Ovinu Malkeinu, chantée par Alexander, alors je ne sais pas si je prononce bien, Yuraj et Arnos Neufeld, qui est le Razan de Brno. Et c'est extrait d'un CD qui s'appelle Adon Olam, donc une compilation de morceaux chantés par notamment Joseph Malavoni et Messieurs Neufeld, ainsi que Le Cœur quand il est là, publié en 2000. Une superbe musique où on entend d'ailleurs Martha à un certain moment donc la voix du deuxième Razan en fait qui fait un peu ce qu'on appelle le meshorer, c'est-à-dire il le double ou il accompagne, il double la voix du Razan, du premier Razan ici à la tierce, c'est-à-dire trois notes plus bas ou plus haut, cela dépend. De quand date cet enregistrement, Martha? Parce que c'est un enregistrement quand même un peu historique. Et puis, on y entend un orgue. Est-ce que c'était habituel donc d'utiliser un orgue à la synagogue de Brno? Est-ce qu'on avait des orgues dans toutes les synagogues? Enfin, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots?
Oui, cet enregistrement est réalisé par le Český rozhlas, le radio tchèque, en 1967. C'était en fait une famille des Hassanim. On a entendu Alexandre, le père, et Jura et Arnos, ce sont été les fils.
D'accord.
Et ils ont chanté aussi après la guerre à la synagogue de Brno. Et les orgues étaient généralement très répandus dans les synagogues de Tchéquie. De plus, c'est à Prague que l'on trouve le premier témoignage de l'utilisation d'une orgue dans une synagogue. Mmh. Et,
c'est de quelle année à peu près?
Oui, c'est la fin du XVIe siècle.
XVIe siècle, incroyable.
Qu'on trouve des témoignages de la synagogue Meisel. Quand on a construit cette synagogue, on a déjà
installé
un orgue.
C'est fantastique, oui. C'est vraiment le premier orgue.
Oui, et on l'a joué les vendredis soirs.
Donc, pour rester dans cet univers synagogal, Martha, vous nous avez amené un autre morceau liturgique d'un chantre de Prague qui nous interprète la prière Ashkivenu. Il s'agit donc du chantre Ladislav Moshe Blum, Ashkivenu.
Oh.
prière à Shlevenu, chanté ici par le Chazan Ladislav Moshe Blum, un disque édité par le Musée juif de Prague en 2008, un disque qui s'intitule Cantor Ladislav Moshe Blum et qui est basé sur des enregistrements personnels entre les années 1978 et 1983. Martha, il y a une chose qui me frappe quand même dans ce que nous venons d'entendre par rapport à ces pièces liturgiques. À part celles-là, elles sont chantées souvent avec chœur. La première pièce était chantée même par un chœur mixte, la deuxième par un chœur d'hommes uniquement. Quelle était la situation des chœurs en fait en Bohême et en Moravie avant-guerre? Était-il mixte ou uniquement pour voix d'hommes et d'enfants? Et autre question, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre durant la période communiste?
En Bohême et en Moravie, il y avait souvent des chœurs mixtes dans les synagogues réformées. Dans les archives du musée juif à Prague, on peut encore trouver beaucoup de partitions avec des compositions liturgiques dans le style du 19e siècle qui sont pour chœur mixte et qui sont aujourd'hui presque oubliées. Et il y a eu beaucoup de compositeurs très, très connus au début du 20e siècle.
Donnez-nous quelques noms. Là. Tout à l'heure, vous nous avez dit David
oui,
Rubin, mais des noms.
David Rubin et Konrad Wallerstein, aussi qui était directeur d'une école de Rassanim. Max Löwenstamm, qui était plus tard à Munich. Et Josef Heller à Brno. Et après la guerre, à Brno, la famille Neufeld a établi un petit chœur des hommes. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus des chœurs aux synagogues en République tchèque.
Est-ce que vous voulez dire que donc avant la guerre, les chœurs étaient plutôt mixtes, majoritairement mixtes, et après la guerre, en fait, le peu de chœurs qu'il y avait, c'était des chœurs d'hommes, en fait. C'est cela que vous voulez dire?
Oui, mais en fait, à Brno, c'est le seul chœur que je connais qu'il existait.
Ah oui, c'était pendant la période communiste.
Avant la guerre, oui, avant la guerre, on a eu beaucoup de chœurs, spécialement dans les synagogues réformes. Mais pendant le communisme, la situation n'était pas facile pour les communautés à continuer la vie religieux et à pratiquer les offices. Et comme, en fait, comme toutes les organisations de toute religion, aussi les chrétiennes, les communautés étaient observées par la sécurité étatique. Et aussi le culte synagogal changeait parce que la composition des communautés a changé. Parce que la plupart des juifs tchèques qui ont survécu à la Shoah étaient athées ou non religieux. Et à Prague, la majorité des membres après la guerre étaient des juifs des régions de l'Est de la Tchécoslovaquie, souvent de la Transcarpathie.
Donc des orthodoxes plutôt.
Oui, c'était plutôt les orthodoxes.
Il y avait combien de synagogues après-guerre qui fonctionnaient à Prague alors?
Après la guerre, seulement deux. C'était la Altneue synagogue, la plus ancienne, et la synagogue du Jubilé. Et les juifs de l'Est, originaires de l'Est, priaient dans l'Altneue synagogue, et les juifs originaires de Prague préféraient la synagogue du Jubilé.
Où chantait, je crois, justement, le Chazan Blum que nous venons d'entendre. Hein.
Oui, c'est ça.
Et donc, vous nous avez dit tout à l'heure que les Juifs de Prague ne parlaient pas le Yiddish. Et là, en même temps, on a vu qu'il existait une région de la Tchéquie, la Transcarpathie, où l'on trouvait des locuteurs Yiddish. On commence à comprendre un peu comment ça se fait. Ils venaient d'Europe, ils venaient plus de l'Europe de l'Est, c'est pour ça, non? Ou pourquoi il y avait ces locuteurs Yiddish?
Oui, c'est vrai que ce n'était pas correct quand j'ai dit qu'on ne parlait le yiddish parce qu'il y avait une partie de la Tchécoslovaquie pendant la Première République
Qui a débuté en 1918, je crois.
Oui, hein. Et jusqu'à l'occupation par les nazis. C'était la Transcarpathie qui appartenait à la Tchécoslovaquie. Et cette région se trouve aussi aujourd'hui en Ukraine. Et c'est une région très intéressante parce que la population était très mélangée. On a eu des Tchèques, des Slovaques, des Hongrois, des Roumains, des Ruthènes et aussi des Juifs. Et dans les centres de la Transcarpathie, à Ujgorod et Mukachevo, les Juifs parlaient yiddish. Et aussi des autres langues hongroises, oui.
Alors, je vous propose d'écouter justement un de ces airs yiddish, Unterklang Beimele, du groupe Mishpara, avec le chanteur Miki Roth, pardon, vous nous commenterez cet extrait après, Martha.
Unterragt ein Bimmele, sitzen Jüngle zwei, sie reden mit einem Mädele, kein sagt immer zwei. Sie reden mit einem Mädele, kein sagt immer zwei. Der Zirta, der den Nis im Lach, muss er rot gehad, hat er an der Reusser Zeit, doch so akkurat. Lei, 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 lei. Unterragt ein Bimmele, sitzen Jüngle zwei, sie reden mit einem Mädele, Fragt sich und den ganzen Tag hab ich nicht gegessen. Dort, wie sie hat geweint, schon heut umgesessen. Lei, 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 lei. Unter acht drei Bämele sitzen im Gesell. Sie reden viel nach Mädele, kein Sack im Gesell. Sie reden viel nach Mädele, kein Sack im Gesell. Sturm, Wind, Regen, Schnee, kein Sack umgeschrocken. In der Mappe, in der Heim gepackt hat mit der Flocke. Lei, 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 lei. Und der Acker ein Bämele, sitzen in der See. Sie reden für ein Mädele, kein Sack im Erzähl. Reden für ein Mädele, kein Sack im Erzähl.
Du Groupe Mishpara, unter Klein Bämele, dans un CD qui s'intitule Hasidic and Jewish Folk Song, direction Hannah Roth, publié enregistrement entre 1991 et 2007. Martha, juste quelques mots rapides sur ce groupe Mishpara. Quel est ce groupe?
Mishpara est un chœur qui a commencé en privé au début des années 80, avant la chute du mur de Berlin. Et à chanter dans ce chœur, c'était une forme d'opposition contre le régime communiste et contre l'oppression aussi de la culture juive par le système politique. Dans ce chœur, on a chanté des chansons juives et israéliennes. Et le soliste qu'on vient d'entendre était Miki Roth, qui était chazan à la synagogue Altnoy, la synagogue principale de Prague. Et en 1994, après la mort de Moshe Blum, Miki Roth a pris sa suite comme Hassan à la synagogue du Jubilé.
C'est intéressant, ça veut dire que les Hassanim peuvent changer de répertoire, ils passent du répertoire religieux, liturgique, à un répertoire que je qualifierais plus de folklorique, mais de populaire à partir de chansons yiddish. Et c'est intéressant d'autant plus que la musique instrumentale a toujours été très présente à Prague. Vous avez cité tout à l'heure la présence d'un orgue dès le XVIe siècle. Et on a de nombreux témoignages, en fait, en ce qui concerne cette pratique instrumentale pragoise, notamment de la fin du XVIIe siècle. On sait qu'en 1678, on avait eu une grande procession qui comprenait plus de 20 instrumentistes, un chœur de Razanim avec leur assistant et deux chœurs de fidèles. D'autre part, on avait de nombreuses confréries religieuses, par exemple les Mezamrei Barour Shamar, qui veut dire les chanteurs de la prière Barour Shamar, qui jouaient de la musique instrumentale à la synagogue le vendredi après-midi. En effet, le vendredi après-midi, c'était cette fameuse cérémonie qu'on appelle Kabbalat Shabbat, l'accueil du Shabbat, et l'usage était d'accueillir le Shabbat en musique. Et c'est ainsi que Abraham Lévy d'Amsterdam, qui était de passage à Prague en 1719, et entre 1719 et 24, avait constaté que les chantres utilisaient aussi des orgues, des cymbales, des clavecins et des instruments à cordes chaque vendredi pour l'accueil du Shabbat, et qui pouvaient comme ça jouer pendant plus d'une heure. Je vous propose d'écouter à présent un ensemble instrumental, mais un ensemble actuel qui donc se produit à Prague, les Prague Klezmerim, qui vont nous interpréter Fünf Tachlir. Groupe Prague Klezmerim qui nous interprétait Fünf Tachlir dans un CD qui s'intitule Yiddish Blues, qui porte bien son nom, édité en 96 et réédité en 2008. Martha, quelques mots sur le groupe que nous venons d'entendre?
Nous venons d'entendre le groupe Prague Klezmerim, qui est le premier groupe de Klezmer en République tchèque après la guerre, du revival de Klezmer. Et ils ont commencé à chanter et jouer il y a 20 ans déjà, comme enfant dans le groupe Mishpacha que nous avons entendu précédemment. À ce jour, elle joue régulièrement aux fêtes de la communauté juive à Prague.
Il faut aussi dire que la majorité des musiciens juifs, notamment pragois, mais pas uniquement, ont disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, broyés par le nazisme. Et cela nous amène à évoquer très brièvement ce camp de déportation particulier que fut Theresien ou Theresienstadt pour les nazis et les créations musicales qui virent le jour. Tout le monde ou presque connaît Victor Ullmann et son opéra L'Empereur d'Atlantis, ou encore Hans Krása et son opéra pour enfants Brundibar. Mais on connaît moins l'œuvre de Zygmunt Schul, dont vous nous avez apporté une composition inspirée d'une prière de la liturgie juive chantée à la fin de la Amida de la veille du Shabbat, Mogen Avos. Écoutons cette prière. de Sigmund Schuld, un extrait d'une œuvre Mogenavos, extraite elle-même de la série produite par Francesco Lottero sur les musiques de l'Holocauste, Encyclopedia of Music Composed in Concentration Camps. Et c'était chanté par le chœur de l'Université de Foggia, direction justement Francesco Lottero. Martha, que se passe-t-il aujourd'hui au niveau des musiques juives en République tchèque? Assiste-t-on à un renouveau de ces musiques?
Il y a un grand intérêt international, de plus en plus fort pour les musiques des compositeurs persécutés comme juifs par les nazis. Des compositeurs qui ont composé à Theresienstadt, par exemple. Il y a aussi plus et plus de groupes de klezmer. Mais ce qui concerne la musique des synagogues, on ne sait pas grand-chose. Il n'y a presque plus personne qui peut nous raconter comment étaient les traditions liturgiques avant la guerre. Et parmi le peu de personnes qui sont rentrées des
camps
de concentration, la majeure partie a émigré aux États-Unis ou en Israël. Et aujourd'hui, en République tchèque, il n'y a plus que 10 villes comportant des communautés juives. Avant la guerre...
Il y avait combien de juifs avant la guerre?
118 000.
118 000 juifs.
Je vivais en Bohême et en Moravie, mais les deux tiers ont péri durant la Deuxième Guerre mondiale.
Et aujourd'hui à Prague, il reste à peu près combien de juifs qui sont attachés
aujourd'hui,
à la communauté?
Aujourd'hui, il y a 1600 membres.
Oui,
de
donc
la
c'est
communauté.
Vraiment pas beaucoup.
Non.
Et d'où viennent les Razanim alors?
Aujourd'hui, presque tous les Razanim viennent d'Israël ou des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Il n'y a plus aucun chœur dans les synagogues en Bohême et Moravie. Et on ne joue plus de l'orgue dans les offices.
Merci beaucoup, Martha. Notre émission touche à sa fin. C'est passionnant. On aimera en savoir plus et on vous réinvitera. Et vous avez souhaité, pour terminer cette émission, nous faire entendre un morceau du Dol Dauer Orchestra qu'on a entendu en premier, qui accompagne donc le Razan Joseph Weiss dans la prière de Yom Kippour, Anna Avdo, une très belle version enregistrée en 1948.
De cocho berrijo de sogirlo camei o mi came di car o errai sei befalidon veidon it's no
Chers amis, notre édition s'achève. Nous venons d'entendre le Dol Dauer Orchestra et Joseph Weiss, un magnifique enregistrement extrait du CD Musical Fantasy and Jewish Liturgical Song, toujours publié par le Musée juif à Prague. Si vous voulez retrouver ces enregistrements ainsi que l'émission que nous venons de vous faire, vous pouvez consulter le site du Centre français des musiques juives, www.cfmj.fr. Nous vous rappelons à cette occasion que le Centre français des musiques juives possède la plus importante collection en Europe de musique juive, près de 45 000 morceaux de musique enregistrée et autant de pages de partitions à votre disposition, donc n'hésitez pas à consulter le catalogue de nos collections en ligne vous pouvez y entendre des extraits de près de 20 000 morceaux. Donc je répète l'adresse, www.cfmj.fr. Vous pouvez également vous déplacer au centre sur rendez-vous de préférence. Le mois prochain, en janvier 2012, 67e anniversaire de la libération d'Auschwitz, nous approfondirons un aspect abordé ce soir, puisque nous consacrerons une émission à la musique des camps, avec notamment la parution d'un livre de Bruno Giner qui s'intitule « Survivre et mourir en musique dans les camps nazis ». Pour nous accompagner ce soir, j'ai eu le plaisir d'accueillir Martha Stellmacher, qui fait actuellement, dans le cadre du Centre français des musiques juives, un travail formidable sur les archives musicales de la synagogue de la Victoire à Paris, dont nous parlerons certainement dans une prochaine émission. Au micro, Hervé Rotten, et un grand merci à David à la technique. Le Centre français des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission du Centre français des musiques juives, présentée par Hervé Rotten.
Sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mine.